L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette émission, l'Afrique dans tous ses états, cette émission est la deuxième partie d'une première que nous avons faite avec Marie-Claude Siakezak en animatrice qui a invité Monsieur Diane, Yare Diane, qui est le président du collectif Montpelliérain, en compagnie aussi de Christian Allier qui a donné son témoignage sur l'île de Gorée. Alors Yare Diane, vous avez parcouru l'histoire finalement de l'esclavage, tous ces liens avec l'Église catholique, le christianisme et aussi les intellectuels du XVIIIe siècle qui validaient finalement un fonctionnement qui nous paraît aujourd'hui très outrancier. Alors peut-être il est bon, je ne sais pas si vous voulez revenir sur votre arrivée à Montpellier, replacer toute cette situation historique avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, finalement. On a toujours des exemples de cet esclavage.
Oui, puis, tout à fait. C'est-à-dire que...
L'après soi-disant esclavage, justement, après ébullition, oui, qui n'a pas forcément été une.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, durant les premières vagues d'abolition, en fait, les vagues littéraires d'abolition sans effet ont commencé en 1802, lorsque Napoléon rétablissait l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe. Ce sont les Danois qui sont les premiers à vouloir abolir l'esclavage parce qu'ils avaient une puissance maritime un peu décadente. Après, ce sont les Anglais qui, en 1833, ont aboli l'esclavage. La France venant après en 1848 et après ainsi de suite les États-Unis, le Brésil et tout ça. Donc, on assiste quelque part à une situation quand même assez catastrophique où, en fait, les victimes n'ont jamais été indemnisées. Ça, c'est déjà un point nodal quand même qu'il faut souligner. Ce sont plutôt les esclavagistes qui ont été indemnisé quelque part, parce qu'il s'agissait bien, n'est-ce pas?
Ils avaient perdu quelque chose.
N'est-ce pas? Ça, c'est déjà un point important. Après, on en arrive sur une Afrique qui est dépossédée de sa ressource primaire, qui est la force humaine quelque part, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec un dépeuplement qui est quand même assez considérable. Ce qui se présente au lendemain de ce qu'on appelle les abolitions de l'esclavage en Afrique, ce sont des populations meurtries, des organisations sociales et territoriales qui sont complètement désorientées. C'est la peur de l'autre, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les relations des uns avec les autres. Ce qui procure une certaine forme de stand-by en attendant de voir ce qui se passe. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que avant que l'esclavage ne soit on peut dire que l'esclavage continue de nos jours. Mais juste un petit point là-dessus, c'est-à-dire que en 1848, on abolit l'esclavage, mais il ne faut pas oublier que le phénomène s'est déporté vers le côté de l'océan Indien, avec Zanzibar comme point nodal de l'esclavage, jusqu'en 1910, alors que le congrès de Berlin, qui a eu lieu en 1885, rappelons-le, pour organiser le partage de l'Afrique entre les différentes puissances coloniales, a eu lieu 25 ans avant que les derniers navires négriers ne quittent l'Afrique en 1910. Ce qui fait que l'Afrique se trouva plongée de suite dans un autre système d'exploitation qui ressemble bien à l'esclavage et dont les conséquences sont encore beaucoup plus dramatiques et drastiques pour l'Afrique et pour les populations africaines. C'est-à-dire qu'on vient cloisonner maintenant les anciens chemins de commerce, de contact des peuples, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne ou bien dans le continent tout simplement. Parce que rappelons ce que c'est que le congrès de Berlin. On prend une règle, on se met dans des bureaux plus éclairés et on découpe l'Afrique, Et le principe est simple. On part des côtes et on va vers le continent. Tant qu'on ne trouve pas d'autres drapeaux d'une puissance colonisatrice, eh bien, on considère que ces territoires sont les siens. Et c'est comme ça que s'est passée la colonisation, qui a eu une conséquence des plus dramatiques possibles. De ce fait, l'Afrique, en fait, on peut le dire, n'a jamais eu le temps de s'organiser.
Tout à fait.
Il faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on parle d'esclavage moderne, des gens qui quittent les pays, de malgouvernance, mais pour gouverner, il faut avoir une certaine stabilité économique, morale, sociale, culturelle, mais l'Afrique a toujours été bousculée dans,
désorganisée
complètement. Oui, c'est-à-dire que les populations qui, en fait, avaient des relations, prenons par exemple le fleuve Lubangui, n'est-ce pas, où par exemple, voilà, les populations vivaient de part et d'autre du fleuve et tout ça, il y avait des échanges et tout ça. Quand le colonisateur il est arrivé, il n'a pas cherché à comprendre quelles étaient les relations et les réalités sociales des uns et des autres. Ils ont tracé à la règle, tout simplement, et maintenant, pour aller traverser, pour aller voir sa tante ou sa grand-mère qui est de l'autre côté, on te dit non, c'est pas possible, il faut aller à l'ambassade chercher un visa et aux affaires étrangères. Les populations africaines n'ont pas compris du tout. Un autre élément qui vient déstabiliser la situation de l'Afrique, c'est la monétarisation des rapports sociaux. Parce que n'oublions pas qu'en cette période-là, les échanges se faisaient sous forme de troc. Les mariages sous forme de dot. On donnait des têtes de bétail ou des sacs de céréales ou des trucs comme ça. Et maintenant, on arrive avec les missionnaires et les colonisateurs en disant, mais en fait, maintenant c'est simple, la seule monnaie d'échange, c'est la ferraille. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous ne pouvez pas échanger. Et les missionnaires dont on vante justement les bienfaits, mais en fait se sont basés sur un système qui est, donc on dit des 3C, civilisé, colonisé et commercialisé. Donc, il y a un bouleversement notoire dans toute forme d'organisation partout en Afrique. Ce qui procure donc...
Y compris spirituel.
Y compris spirituel, bien entendu. Parce que aucun prophète n'est né en Afrique, disons les choses comme elles sont.
Oui.
Voilà. Et aujourd'hui,
dans les religions révélées, effectivement,
effectivement. Et aujourd'hui, en partout en Afrique, on voit que des mosquées et des églises.
Oui,
des choses que les Africains, franchement, n'ont jamais créées. Enfin, leurs ancêtres ne les ont jamais créées. Et ça participe aussi d'une forme de désorganisation qui rentre dans un système dans lequel l'Afrique ne se sortira pas. On parlera après des indépendances. Qui ne sont des indépendances que de papier.
Que de papier, exactement.
N'est-ce pas?
De célébration et de papier.
Exactement. Parce qu'une fois que le partage de l'Afrique s'est fait et que les puissances colonisatrices étaient présentes, vu que le coût des aménagements, vu le coût des chemins de fer pour acheminer justement les produits locaux, donc à amener en Occident, donc devait être supporté par les économies des pays colonisateurs. Très tôt, il y a une forme de substitution avec ce qu'on appelle en fait des sociétés concessionnaires pour essayer de faire diminuer justement le coût justement de ces aménagements-là. Et ces sociétés concessionnaires se sont basées sur un système qu'on le sait très bien, le travail forcé avec une division sociale, avec le code de l'indigénat. On était sujet, par exemple, pour parler des Français, on était citoyen français. Si on était né dans la bonne zone, on va dire Saint-Louis, Dakar, Rufisque-Gorée, Oran, voilà, on était citoyen français. Et pour tout le reste, ce sont des indigènes, des sujets français, qui étaient des sous-hommes. Ça n'a rien à différencier avec le système esclavagiste d'antan, si ce n'est pire.
La désorganisation a continué, en fait, l'esclavage n'a pas eu sa fin officiellement, il a continué sous une forme différente,
tout
avec
à fait.
Cette espèce de suprématie à nouveau de l'économie occidentale qui n'avait rien à voir avec l'économie africaine.
Exactement, avec un système économique qu'on donne à ces nouveaux pays émergents en disant, ben voilà, il va falloir maintenant exporter les ressources matières premières et importer. Mais tous les économistes du monde se sont mis d'accord pour dire qu'aucun pays ne peut se développer qu'avec des importations.
Tout à fait.
Et en Afrique, depuis les années 60, la période des grandes, la grande période des dites indépendances, les économies africaines se sont basées sur des systèmes d'importation. Ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas se tenir de voir la situation économique des pays africains qui est dans une situation assez catastrophique quelque part. Ne parlons pas du franc CFA pour le cas de la France.
Et de la dette.
Et de la dette, dans la mesure où récemment, j'ai vu une revue économique africaine. Les 10 pays africains les plus riches n'ont pas le CFA.
Ben oui.
Alors moi j'aimerais bien que certains économistes qui se dit économiste de grande renommée viennent nous expliquer comment est-ce que avec ce système-là on pourrait avoir des pays émergents qui émergeront vraiment parce que émergent pour le dire voilà c'est facile c'est beau à entendre mais dans le fait dans le concret de la chose il n'y a pas d'émergence il y a plutôt immersion vers des situations beaucoup plus dramatiques au niveau économique et social.
Oui alors justement la question que je me pose parce qu'on parlait tout à l'heure hors antenne du livre d'Albert Londres « Terre d'ébène » qui date de 1929. Et quand on lit ce bouquin, qui a fait scandale en son temps parce qu'il est cynique, il est implacable, il observe et il dénonce avec beaucoup de verve et de hargne un petit peu les politiques de colonisation et particulièrement celle de la France. Moi, à la fin de ce livre, ça m'a laissé déprimé parce que je me suis dit, mais rien n'a changé. Mmh. Et ce qu'on se dit, c'est que justement, tout perdure. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est quand même une terre. On est très ancré dans la terre et effectivement, la force souvent de l'Afrique, quand les Africains disent qu'ils ont le temps, ils n'ont pas la montre, effectivement, sa force, elle est là, mais par moments aussi, et là, on voit bien qu'elle est aussi sa faiblesse et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on peut faire? Alors, déjà dénoncer, déjà que les gens n'aient pas l'impression que là-bas, on va les aider quand on y va. Quand on va là-bas, on a des partenaires, on n'a pas des assistés, etc. Et comment on pourrait faire pour que cette forme aussi d'esclavage s'allège, enfin, laisse peu à peu la place à du dynamisme? Alors, il y a effectivement les pays qui n'ont pas le CFA. Moi, je pense, parce que moi qui connais bien le Burkina, je sais qu'il y a le Ghana à côté qui fait des envieux chez les Burkinabés. Hein, chaque fois qu'ils vont là-bas, ils sont absolument éblouis. Comment on pourrait faire, Yari? Qu'est-ce qui peut se faire, là?
S'il y avait une solution miracle, à mon avis, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus versés dans la connaissance que nous, qui pourraient la sortir. Mais quand même, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand on dit que l'Afrique est allée à l'indépendance balkanisée, les mots ont leur sens.
Tout à fait.
Avant les indépendances, pour le cas français, on avait droit à des entités assez cohérentes. L'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française et Madagascar, qui avait un statut spécial, n'est-ce pas? Et cette balkanisation s'est toujours maintenue, si on peut dire ainsi. Et les situations, donc comme on l'a dit, économiques à travers donc, certaines politiques, on en parle du CFA, mais on peut parler aussi des politiques d'ajustement structurel qui ont détruit les politiques de la culture unique, donc qui en fait qui appauvrissent considérablement les sols, les politiques d'accaparement des terres, contribue à des déplacements de population. En fait, donc, sur ces déplacements de population, il y a une certaine partie qui va dans les milieux urbains. Les milieux urbains, c'est un milieu agressif.
Tout à fait.
Parce que ces gens ne comprennent pas ce genre de choses. Et donc, ils sont tout le temps à la recherche d'un certain équilibre social, on va dire, et économique, pour pouvoir vivre dans ce monde si bas et puis aider les leurs, quelque part. Ce qui procure, quelque part, c'est pas étonnant de voir, encore aujourd'hui, des gens prendre ce qu'on appelle, on peut même pas appeler des bateaux, et essayer de traverser l'Atlantique. Je veux dire, c'est une nouveauté qui date d'il n'y a pas longtemps,
il
y a 20 ans ou 30 ans, ça n'existait pas.
Ouais.
C'est pour montrer que la pauvreté s'est accrue et que les gens ne trouvent pas de solution pour pouvoir sortir de ce cadre-là. Je pense que l'effort pour faire redorer l'Afrique de son blason est considérable. Je pense qu'il faudrait rediscuter les dimensions des États. Parce que, en fait, les États tels qu'ils sont aujourd'hui en Afrique ne correspondent pas aux aspirations des peuples africains. Ce sont des choses qui ont été imposées. Certes, ça fait presque 60 ans, mais qu'est-ce que 60 ans sur toute la durée de l'histoire de l'Afrique? C'est rien du tout. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on leur laisserait le soin de redessiner eux-mêmes leurs propres frontières? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un monde, on va dire, capitaliste. Et on parlait de l'esclavage tout à l'heure, on y est bien là-dessus. Il faut noter quand même que durant les dernières périodes de l'esclavage, l'économie monde s'est transformée en une économie mercantiliste, vers une économie monopoliste avec l'émergence de capitaux. Et ce sont ces capitaux qui sont la base du capitalisme d'aujourd'hui. Donc, juste en aparté pour essayer de balayer d'un revers de main tous ceux qui nous disent « Ouais, mais ce sont plutôt les villes côtières qui ont bénéficié de l'esclavage et tout ça. » Mais non, c'est-à-dire que quand on parle de l'économie de capital, on parle aussi aussi de l'émergence des plateformes portuaires. On l'a vu ici sur la façade atlantique, on l'a vu à Amsterdam, Liverpool et tout ça. Mais il faut parler des banques et des assurances. Mmh. Et ces dernières n'étaient pas forcément sur la bande littorale. Mmh. Donc quand on parle de l'esclavage, que tout le monde y a, est concerné, aussi bien en tant que bourreau ou en tant que victime, on peut parler jusqu'en Suisse, parce qu'il y a des assurances qui sont basées en Suisse, ou à Genève, ou bien en Allemagne, ou à Paris, et qui ont contribué à ce truc-là. Donc on est dans un système capitaliste, et dans lequel l'Afrique a été propulsée là-dedans, sans pour autant se préparer. Comment est-ce qu'on peut revenir sur les situations, sur une situation beaucoup plus plausible? Il faut déjà quand même essayer d'instaurer un système qui se dit démocratique, où les peuples peuvent avoir la liberté d'élire qui ils veulent. Mmh. Et lorsqu'on sait l'ingérence
tout à fait
politique qui est justement mue par des intérêts économiques des pays occidentaux, ouais, sur les élections qui se passent dans beaucoup de pays africains, on est très sceptique de voir quand même une émergence qui pourra venir de l'Afrique en tant que, avec des populations qui s'organisent en tant qu'entité, pays cohérent, et qui puissent justement dérouler leur feuille de route. N'oublions quand même que plus de 22 leaders africains qui se sont braqués contre ce système colonialiste d'exploitation ont été tout simplement liquidés d'une manière ou d'une autre par les puissances occidentales.
Ça, on ne va pas dire non, malheureusement.
C'est très clair. Je veux dire, on va partir de Gungunyana au Mozambique, c'était avant la période des indépendances, jusqu'à Thomas Sankara ou le colonel Kadhafi, mais sans pour autant qu'il ait tiré une main glorielle vis-à-vis du colonel Kadhafi. Mmh. Mais on peut dire tout simplement que du temps où il gérait la Libye, je pense que les Libyens étaient beaucoup mieux lotis qu'aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que les Libyens, ça a désorganisé toute la sous-région africaine.
Tout à fait, exactement. Hein. Et tout cela parce que ces derniers voulaient tout simplement créer un fonds monétaire international africain pour permettre aux pays africains d'avoir des prêts avec des intérêts moins lourds pour les habitants, de créer des satellites pour que aujourd'hui, par exemple, si vous voulez appeler, vous avez un fils qui va aux États-Unis, vous prenez fille, vous l'appelez, c'est gratuit. Je peux vous dire, crois-moi, que pour téléphoner du Sénégal au Malawi, je peux vous dire, ça peut vous coûter quand même très très cher. C'est quand même une aberration au 21e siècle.
Oui, et puis Christian a parlé de la dette, pardon, tout à l'heure, effectivement, il y a la problématique de la dette.
Oui.
Quand on sait qu'en fait, ce sont les pays occidentaux qui sont en dette et qu'on exige de l'Afrique ce remboursement alors qu'elle est déjà exsangue et qu'on l'a complètement dépossédée, il y a quand même une aberration.
C'est une aberration totale. Moi, j'aimerais bien savoir le jour où les Africains vont demander leur dette vis-à-vis de l'esclavage,
absolument,
de la colonisation, de l'impérialisme et de tout ce qui a suivi derrière. À mon avis, on ne s'en sortirait pas. Donc moi, de mon point de vue, je pense que il serait intéressant pour avoir une vision positive par rapport à notre avenir, de se référer à la citation de Aimé Césaire, qui disait donc dans un de ses bouquins de manière très claire, il disait non, jamais dans la balance de la connaissance, le poids de toutes les misères du monde ne pèseront autant qu'une étincelle de sympathie humaine. À partir de ce moment-là, quand on prend ces mots au mot, on pourra peut-être réfléchir sur un avenir africain qui sera radieux. Comme le disait aussi Wangari Maathai, la Kenyane qui a joué un rôle important dans l'histoire du Kenya et l'histoire de l'esclavage, elle disait justement que l'Afrique a été un peu un continent où les gens ont été martyrisés, un continent brisé avec des guerres, des famines, des déplacements de population. Mais ce qui l'étonne, ce qui l'a toujours étonné, c'est que partout dans le monde, s'il y avait des gens ou des populations qui avaient subi ce genre de sort, ils auraient abdiqué depuis longtemps. Mais ce qui la remonte, c'est que les Africains ne renoncent jamais.
Jamais. Et ça, c'est vrai que c'est leur côté.
Qu'ils rient et qu'ils dansent. Ils aiment la vie. Alors ils vont vivre.
Ouais. Tout à fait.
Ouais. Et alors, justement, pour en venir aux citations, c'est le fameux de Martin Luther King, quand même, qui fait écho pour moi à cette commémoration essentielle de l'abolition de l'esclavage, qui est une commémoration qui doit être commune. Parce que des deux côtés, on a quand même souffert. Et puis, moi, j'ai appris d'ailleurs dans le film exemplaire sur l'esclavage, les routes de l'esclavage. J'ai appris quand même qu'en Europe, les populations étaient souvent contre l'esclavage.
Mais oui.
Voilà, justement, c'est pour dire, on a connu l'esclavage, nous, avec les servages, etc.
Tout à fait.
Et alors, donc, cette fameuse citation qui est connue, « Nous devons apprendre ensemble, à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Donc, on a intérêt, effectivement, à se retrouver et à revoir les choses un petit peu de façon à rétablir des équilibres qui sont le déséquilibre du capitalisme est en train de pourrir toute la planète en plus.
Tout à fait, hein? Et tout à fait. Et je suis très bien d'accord avec ces mots et cette citation de Nelson Mandela. D'autant plus que, en regardant d'un œil simple les choses, l'Afrique est le continent qui encore aujourd'hui est le plus riche au monde.
Mmh, tout à fait.
Alors, si on ne veut pas aller vers des déconvenus, si on ne veut pas aller vers un ouragan africain qui enfin va se lever et qui, franchement, ne sera pas très doux vis-à-vis de tout ce qu'ont connu les Africains en termes de martyrs, il serait intéressant justement de vaquer à ces civilisations universelles où chacun respecte l'autre en fonction de ce qu'il est. Et comme disait Tristan Tobira, nul n'a le droit d'amener donc son humanité au-dessus des autres. N'est-ce pas?
Voilà. Bon, on a essayé de faire ça, en tout cas aujourd'hui. Hein.
Tout à fait.
Ouais. Alors, j'ai l'impression que la fin de l'émission sonne, mais vous êtes venu, Monsieur Yaredian, avec une musique du groupe Baobab. Il y a une raison pour laquelle vous êtes venu avec celle-ci, Outourou.
Outourou, Baobab, c'est Orchestra Baobab. En fait, ils font de la salsa, ce qu'on appelle la salsa. Et ce sont des Sénégalais. En fait, la musique salsa, c'est la première musique commercialisée sénégalaise, en fait. Et l'universalité de l'esclavage, en fait, se retrouve quelque part là-dedans où, en fait, comme le disait Marie-Claude, les esclaves, au-delà du fait qu'ils aient été torturés, martyrisés et tout ça, ont pu essaimer et ont pu donc donner à l'humanité tout un pan de culture et tout un pan de savoir qui aujourd'hui perdure et qui font le lien des populations entre de Cuba à Dakar et de Dakar au Cap-Vert et ainsi de suite. Et je pense que par la musique est très importante dans l'histoire de l'esclavage parce qu'elle permettait de pouvoir oublier le labeur, parce qu'elle permettait de pouvoir se transmettre des messages sans pour autant que les maîtres fouettards soient au courant. Et la musique adoucit les mœurs, bien entendu.
Et elle était une résistance.
Et c'était une forme de résistance.
Puisqu'ils se fabriquaient des instruments. Les
exactement.
Pour le cajon en Afrique latine.
Ou le mirimbao.
Voilà, exactement.
Qui est utilisé par les Gnawa, donc les anciens esclaves sahraouis, et qui se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, utilisé dans le cadre de la capoeira. Voilà, c'est le même instrument. Et donc ce sont des ponts, l'esclavage construit des ponts, mais sur ces ponts-là, il faut mettre du positif.
Tout au
lieu,
oui.
Voilà, et au lieu de mettre, de verser dans l'ignominie et dans la guéguerre.
Donc, c'est avec l'orchestre Baobab qu'on se quitte avec le morceau Outourou.
Outourou.
Outourou. Merci, monsieur Yaredian, pour cette militance. Qui vous porte. Merci à Marie-Claude Siakezak pour cette préparation d'émission et merci à Christian Allier pour l'accompagnement très précieux du souvenir d'enfance. À bientôt.
À bientôt. Gamesti machil, isam sertu kumai na fiu.
Adimare kachika kuspinamo Punta moja naso Umayo suku Kwane gata no yake yake chipirke Tusopele kumbu kiasi Lua nyokomo Kwane gata no yake yake chipirke Tusopele kumbu kiasi Lua nyokomo Thank you.
na mongo e
Ada fosa konse kumzala Ada fosa
Wande kata mongo yanke yanke chibirke Tu sapele kumungyasi
Ada fosa konse kumzala Ada fosa
Wande kata mongo yanke yanke chibirke Tu sapele kumungyasi
Ada fosa konse kumzala
Vinha que mangue na contra, com pensei não cantar.